Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
La création de la soie. Sur les grandes plaines, les chevaux galopent, jouent avec le vent. Sous les grandes tentes, les navettes filent entre chaînes et trames. La soie toujours chante et murmure l'amour, le secret du vent, du temps, de l'espace. Dans la grande steppe, parmi les collines d'herbes rases, se trouve le village. Les tentes blanches aux toits pointus sont installées au bord de la rivière. Dans la plus grande vit Canu avec son père et sa mère. Le père adore sa fille et l'emmène pour de longues chevauchées sur son fidèle cheval noir. Son cheval est son complice, mais elle est son joyau. Quand vient le temps des caravanes, le père s'en va pour de longs mois. Cette année-là, après 3 semaines, on voit revenir le grand cheval noir sans son cavalier. La caravane a été attaquée. Le cheval est arrivé à l'aube, il a posé sa tête au creux de l'épaule de Canu. Depuis, elle s'occupe de lui, sans cesse, le nourrit, lui donne à boire et part avec lui pour de grandes chevauchées où tous les deux oublient leur peine. Plus vite que le vent, Canu et son cheval noir vont loin, loin, si loin, jusqu'à Samarcande. Là, elle monte debout sur le dos du cheval et regarde de tous côtés. Aucune trace de son père. Alors elle rentre au village. Elle se couche et refuse toute nourriture, enfermée dans son chagrin. Sa mère, désespérée, convoque tous les hommes du village et leur dit « Celui qui ramène le père aura la fille en mariage. » Les jours passent. Les plus amoureux, les plus téméraires reviennent bredouilles de leur quête. Alors la mère ne sait plus que faire. Un matin, loin dans la steppe, du fond de sa désespérance, elle s'adresse au soleil, au ciel, à la terre, aux herbes, aux oiseaux, et crie « Celui qui ramène le père aura la fille en mariage. » Le lendemain, la fille va nourrir le cheval. Le corral est vide. Dès lors, fille et mère errent telles des âmes perdues. Quelques jours plus tard, à l'horizon, dans la brume matinale, apparaît une silhouette. Un cheval avec un cavalier. Le père est de retour. C'est la fête, on boit, on rit, on danse, on chante. L'Arrac coule à flot. Mais le cheval ne reconnaît plus son maître. Chaque fois que celui-ci s'approche, il recule et se cabre. Alors il va voir son épouse. « Je ne reconnais plus mon cheval, mon vieux compagnon. Il me fuit. Que s'est-il passé pendant mon absence ?» Alors la mère baisse la tête et avoue ce qu'elle a crié dans les collines, ce qu'elle a crié devant les habitants du village. Celui qui ramène le père aura la fille en mariage. Oh, ce cheval veut épouser ma fille. Mais pour qui se prend-il ? Le père monte sur son cheval et va loin dans la steppe. Il revient seul le soir. Seul et à pied. Le lendemain matin, Canu court dans les collines. Elle est heureuse, c'est le printemps. Les oiseaux chantent 1000 mélodies, les fleurs éclatent de tous côtés. Mais au pied d'une colline, elle trouve la peau noire de son cheval. Étalée sur le sol, séchant au soleil. Alors, elle tombe à genoux. « Non, mon ami, c'était mon ami. » Un tourbillon de vent soulève la peau de cheval, enveloppe Canu et l'emporte loin dans le ciel. Son père, accompagné des hommes du village, arrive. Ils suivent la peau de cheval qui continue sa route et se pose sur une forêt de mûriers, sur le plus haut des arbres. Regardez là-haut la peau de cheval. Ce cheval a le pouvoir de transformer ma fille en une chenille blanche. La chenille mange les feuilles et grossit à vue d'œil. Un long fil blanc sort de sa bouche. La tête de cheval va et vient de gauche et de droite. Par son mouvement, le fil s'enroule autour du corps jusqu'à le faire disparaître entièrement dans le cocon. Il se fait un long silence. L'obscurité descend. Les hommes s'installent pour la nuit. Le lendemain matin, peau de cheval et cocon ont disparu. La nuit suivante, le père fait un rêve. Au bord d'un lac de montagne, alors que se déploie un arc-en-ciel, des jeunes filles courent, dansent et rient. Parmi elles, Canu, sa fille, si belle. Elle porte un manteau pourpre léger. Sur sa tête, ses longs cheveux noirs s'enroulent en anneaux. Au-dessus de sa chevelure trône une tête de cheval. Le père s'exclame « Ma fille, mon cheval !»« Pardonnez-moi, je ne savais pas. »« Père, laissez votre peine, laissez votre peur. »« Je suis maintenant parmi les dieux immortels. » Elle ouvre les mains, une pluie de cocons blancs glisse dans les mains du père qui les recueille. « Donnez ceci aux femmes et je viendrai leur expliquer comment on tisse la soie. » Le père offre cette neige de cocon à sa femme. Elle lui avoue qu'elle a fait le même rêve. Le lendemain soir, le père et son épouse se promènent au bord de l'eau. Dans les rayons de la lune, ils aperçoivent des reflets blancs et verts, du jade. Le père sculpte dans le jade les formes qu'il a vues dans son rêve. La déesse, il la nomme Canu. Depuis ce jour, Canu est devenue la déesse de la soie, protectrice des tisserandes. Dans sa chevelure, une tête de cheval. Sur les grandes plaines, les chevaux galopent, jouent avec le vent. Sous les grandes tentes, les navettes filent entre chaînes et trames. La soie toujours chante et murmure l'amour, le secret du vent, du temps, de l'espace.
Voilà pourquoi l'eau de la mer est salée, un conte chinois. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Wang l'aîné était le plus fort et brimait son frère cadet sans cesse. Coup de pied, coup de poing, insultes, bagarres. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wang cadet. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père, la belle maison, le buffle et tout le bien. Wang cadet n'eut rien du tout de l'héritage du père, et la misère s'installa bientôt dans sa maison. Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il ne pourrait même pas manger. Alors ce jour-là, il se décide à aller chez son frère aîné. Arrivé sur place, il le salue et lui dit « Frère aîné, « prête-moi un peu de riz. » Mais son frère, qui était très avare, refuse tout net de l'aider. Et le cadet doit repartir. Ne sachant que faire, Wang cadet s'en va pêcher au bord de la mer Jaune. La chance n'est pas avec lui, car il ne parvient même pas à attraper un poisson, un seul petit poisson. Il rentre chez lui, les mains vides, la tête basse, le cœur lourd, quand soudain, il aperçoit une meule au milieu de la route. Ça pourra toujours servir, pense-t-il en ramassant la meule, et il la rapporte à la maison. Dès qu'elle l'aperçoit, sa femme lui demande « As-tu fait bonne pêche? Rapportes-tu beaucoup de poissons ?»« Non, femme, il n'y a pas de poissons. J'ai apporté une meule. » « Ah, Wankadé, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain à la maison. » Wankadé pose la meule par terre et de dépit lui donne un bon coup de pied. La meule se met à tourner, à tourner, à tourner et à moudre. Et il en sort du sel, des quantités de sel. Elle tourne de plus en plus vite et il en sort de plus en plus de sel. Wankadé et sa femme sont tout contents de cette aubaine. Mais la meule tourne, tourne et le tas de sel grandit, grandit. Et Wankadé commence à avoir peur et se demande comment il pourrait bien arrêter la meule. Il pense, réfléchit, calcule et il ne trouve aucun moyen. Et soudain, il a enfin l'idée de la retourner. Et là, elle s'arrête. À partir de ce jour, chaque fois qu'il manque quelque chose dans la maison, Wankadé pousse la meule du pied et obtient du sel, qu'il échange avec ses voisins contre ce qui lui est nécessaire. Et ils ont vécu ainsi à l'abri du besoin, lui et sa femme. Mais le frère aîné apprend bien vite comment son cadet a trouvé le bonheur et il est assailli par l'envie. Il vient voir son frère et dit « Frère cadet, prête-moi donc ta meule. » Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui, mais il a un profond respect pour son frère aîné et il n'ose pas refuser. Wang l'aîné est tellement pressé d'emporter la meule que Wankadé n'a pas le temps de lui expliquer comment il faut faire pour l'arrêter. Et lorsqu'il veut lui parler, l'aîné est déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise. Il est très heureux, le frère aîné. Il rapporte la meule chez lui et la pousse du pied. La meule se met à tourner et à moudre du sel. Elle moue, sans relâche, de plus en plus vite. Le tas de sel grandit, grandit sans cesse. Il atteint bien vite le toit de la maison. Les murs craquent, la maison va s'écrouler. Wang l'aîné prend peur. Il ne sait pas comment arrêter la meule. Il a l'idée de la faire rouler hors de la maison, qui est perchée sur une colline. La meule dévale la pente, roule jusque dans la mer et disparaît dans les flots. Depuis ce temps-là, elle continue à tourner au fond de la mer et à moudre du sel. Personne n'est allé la retourner. Et voilà pourquoi l'eau de la mer est salée.
Le pêcheur mexicain et l'homme d'affaires américain. Sur la côte mexicaine, dans un petit village au bord de l'eau, un bateau rentre au port. Un homme d'affaires américain se promène sur le quai. Alors il va voir le pêcheur, d'abord il lui fait des compliments pour la qualité de ses taux, puis il lui dit « Mais... pourquoi n'en as-tu pas ramené plus ? » ?»« Oh, parce que ce que j'ai ramené suffit à subvenir aux besoins de ma famille. » »« Et combien de temps ça t'a pris ? » ?»« Oh, pas longtemps. » l'homme d'affaires américain reprend, « Mais qu'est-ce que tu fais le reste de ton temps ?»« Le matin, je me fais la grasse matinée. Puis, je vais pêcher un peu. Ensuite, je joue avec mes enfants. En début d'après-midi, je fais la sieste. Le soir, je retrouve mes amis au café du village, nous buvons et nous jouons de la guitare. » L'homme d'affaires américain réfléchit et lui dit « Écoute, je suis diplômé de la faculté de Harvard. Voilà ce que je te conseille. D'abord, tu resteras davantage en mer. Tu ramèneras plus de poissons et avec cela, tu pourras t'acheter un bateau plus gros. » Oui, fait le Mexicain, et après ? Bah après, avec les bénéfices dégagés, tu pourras acheter un deuxième bateau, et ainsi de suite, jusqu'à monter une flottille de chalutiers. Ah, d'accord, c'est bien. Et après ? Bah après, tu pourras, au lieu de passer par des intermédiaires, négocier directement avec une usine, voire même avoir ta propre usine. Le Mexicain réfléchit encore et lui dit « Et après, ben après, tu laisseras ton petit village sur la côte, tu iras vivre à Mexico ou à New York et de là-bas, tu dirigeras tes affaires. » Alors cette fois-ci, le Mexicain prend vraiment le temps de réfléchir. Il lui dit « Et combien de temps ça me prendra tout ça ?»« Oh, 10 à 15 ans, peut-être moins. » »« Mais après ?» Après, dit l'Américain, c'est là où ça devient intéressant. Tu pourras placer ta société en bourse. Tu n'auras plus qu'à toucher les millions. Et après, après, tu prendras ta retraite et tu pourras te lever tard le matin, faire la grasse matinée, puis pêcher un peu, jouer avec tes petits-enfants, faire la sieste l'après-midi avec ta femme et le soir venu, tu pourras retrouver tes amis au café du village et jouer de la guitare. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol.
L'homme qui court après sa chance. Basile habite le village du Cassé. Il vit dans une chaumine toute délabrée, mal chauffée. Et il a beau travailler, se louer pour tous les travaux pénibles, il n'en récolte que des douleurs partout, des ampoules, de l'arthrose et jamais un sou. Et le sort s'acharne sur lui. C'est ça là dont je l'ai, mais pas celle des autres. Son jardin a pris la grêle, mais pas celui des autres. Les tuiles de son toit se sont envolées pendant le dernier orage, mais pas celles des autres. Les misères, c'est toujours pour lui, jamais pour les autres. Ça ne peut plus durer. Basile prend une décision. Il va aller voir Dieu lui-même pour qu'il l'aide un peu quand même. Basile prend sa besace, son bâton qu'il met toujours là, derrière la porte, et il se met en route. Là-haut, vers ce rocher qu'on appelle le doigt de Dieu, là, il le trouvera. Et voilà qu'en chemin, il rencontre un loup, un grand loup maigre au poil hirsute. « Bonjour à toi, mon ami l'homme !» Où vas-tu de ce pas ? Je vais auprès de Dieu parler de mes soucis. » Puisqu'il en est ainsi, dis au bon Dieu qu'il y a un loup affamé qui court le jour, qui court la nuit, qui court par mont et par veau pour se trouver de quoi manger. Demande-lui jusqu'à quand je devrais encore mourir de faim, car si je suis sa créature, il me doit gîte et nourriture. Fort bien, je lui en rendrai compte. » Et Basile prend sa besace et son bâton et continue sa route. Au détour du chemin à Villard-d'Arène, il rencontre une jolie fille toute triste et qui pleure. Elle soupire « Bonjour voyageur, où vas-tu de ce pas ?»« Je vais rendre visite à Dieu. » »« Puisqu'il en est ainsi, tu peux lui dire que tu connais une demoiselle, belle et en bonne santé et riche de surcroît, mais qui ne trouve à vivre ni bonheur ni joie. » « Foi de moi, je lui en ferai part, » promet Basile. Et il continue son chemin. Et voilà qu'au bord d'une rivière, il croise un arbre sec. « Où vas-tu de ce pas, voyageur ?» demande l'arbre. « Auprès de Dieu. »« Auprès de Dieu ? Mais alors est-ce que tu pourrais lui parler de moi ?» Basile est soupçonneux. « D'y voir un peu ?»« Dis au bon Dieu que j'ai beau vivre au bord de l'eau, mes branches jamais ne produisent leurs feuilles. » Mes frères autour de moi grandissent et s'épanouissent, alors que moi, vois, je suis tout sec. Demande-lui de faire quelque chose pour moi, veux-tu ? Je parlerai de toi à Dieu. » Et Basile reprend son chemin. Il marche longtemps à travers la montagne, la rocaille, et voilà qu'il arrive là-haut, au doigt de Dieu. Il s'arrête, souffle, et voilà que Dieu lui parle. « Bonjour et bienvenue, Basile. Bonjour à toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'arrive et qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais, Seigneur, plus de justice entre les êtres. Certains ont tout, d'autres n'ont rien. Moi qui travaille soir et matin, j'ai le ventre vide et toujours faim. D'autres font moins, mais ont une vie plus tranquille. Ta plainte est juste. » « Rentre chez toi, tu auras toi aussi ta chance. Sache en tirer profit. »« Est-ce que c'est tout ?»« Non, Seigneur, j'ai d'autres choses à te dire. » Et il explique à Dieu la plainte du loup affamé, le vœu de la jolie fille et le désir de l'arbre sec. Basile écoute la réponse de Dieu, reprend sa besace et son bâton et repart chez lui. En chemin, il retrouve l'arbre sec. « Bonjour, Basile. Alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu, Dieu ?»« Dieu m'a dit que tes pieds recouvraient beaucoup d'or, qu'il suffirait que quelqu'un le dégage pour que tes racines respirent, et qu'après ça, tu aurais du feuillage. Oh, »« Voilà qui est formidable. Viens vite me retirer cet or. Le profit sera pour nous deux. Tu seras riche et moi, je deviendrai grand. » C'est que pour moi le temps presse. Dieu m'a donné ma chance et je veux de ce pas aller à sa rencontre. » Basile reprend sa besace et son bâton et continue son chemin. Et il retrouve la jolie fille triste. « Basile, est-ce que tu m'apportes quelques bonnes nouvelles ? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu ? Dieu m'a dit qu'il te faudrait un compagnon pour la vie. Dès lors, la joie te comblera. » « Basile, tu me plais bien. Regarde, je suis pas mal tournée. En plus, je suis riche. Marions-nous donc et tu seras ce compagnon. » « C'est que pour moi, le temps presse. Dieu m'a donné ma chance et je veux de ce pas aller à sa rencontre. » Basile prend sa besace et son bâton et continue son chemin. Et voilà que le grand loup maigre, toujours affamé, se dresse devant lui au milieu du chemin. « « Alors, Basile, raconte un peu ce que Dieu t'a dit pour moi. » « Eh bien, tu sais, après toi, j'ai croisé sur ma route une fille fort jolie et un arbre au bord du torrent, tout sec. Eux aussi m'ont demandé d'intervenir auprès de Dieu. Ils avaient tous les deux des soucis. La fille était aussi riche que belle, mais elle vivait dans la mélancolie, la dépression. Et l'arbre était au désespoir parce que ses feuilles ne voulaient pas pousser, ni au printemps, ni en été. J'ai parlé de tout ça à Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu ? Il m'a dit que la jolie demoiselle n'aurait d'autre recours que de prendre un époux pour la vie et que l'arbre, pour retrouver ses feuilles, devait trouver quelqu'un qui libère ses racines de l'or caché autour. À mon retour, j'ai rapporté ces mots à chacun d'eux. L'arbre a voulu que je prenne son or, la fille que je la prenne pour compagne. Mais à chacun d'eux, j'ai refusé. C'est que moi, le temps presse. Dieu m'a donné ma chance et je veux de ce pas aller à sa rencontre. Oh, tout ça, c'est bien beau, reprend le loup, mais pour moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu ? Il a dit que ta faim ne serait apaisée qu'au moment où un imbécile se présenterait à toi. Alors le loup s'est jeté sur Basile et l'a dévoré.